Ok.
Bah, je vous laisse, non, mais si vous voulez faire la...
On est en train de préparer l'illustration sonore et vous n'avez pas de disque. Je vous fais l'illustration.
Elle veut chanter maintenant au micro. Bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que vous allez bien? Vous voulez pas me répondre?
Moi, oui.
Non, mais c'est
aussi,
J'espérais entendre monter de Paris l'immense rumeur de nos centaines de milliers d'auditeurs qui auraient dit « Oui, ça va bien !»
On aurait été contents.
Bah oui, ça va. Ça va, si ce n'est qu'il y a quand même un petit peu d'angoisse toujours dans ces débuts d'émission, parce qu'il y a des moments où on prend des risques quand même. Là, j'avais 3 invités, il n'y en a pas un, ils ne sont pas arrivés.
On est tout seul.
Est-ce qu'il y a des embouteillages? Il n'y a pas un match d'imbéciles? Pardon, un match de foot?
Il y avait un petit embouteillage quand même. On a eu du mal à se garer, mais tout de même.
On peut faire un bridge. Bon, eh bien, on va commencer. Alors, on verra. Si nos invités arrivent, tant mieux. S'ils n'arrivent pas, tant pis. On essaiera de faire avec. Peut-être que vous avez des questions ou constatations ou des remarques à faire sur
l'actualité. C'était la semaine des vœux cette semaine. Vous allez bien me parler des vœux, par exemple, du président. Et puis des pics que le Mitterrand a envoyés à Balladur.
Les vœux du président, je sais pas, il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai trouvé que... Moi, j'ai cru qu'il était mort.
Mais non, pas cette fois-ci.
Il est mort. À mon avis, il est mort. L'explication, c'est ça. C'est qu'il est mort. Vous savez, ils nous font le coup de Bourguiba. Vous vous souvenez, Bourguiba?
Oui.
Vous vous rappelez de Bourguiba?
Oui.
Bourguiba était mort. Tout le monde savait qu'il était mort. Et alors, il l'avait empaillé et il le déplaçait, comme ça, il le transportait et tout. Et moi, je crois que Mitterrand, ils lui ont mis une espèce de petit moteur à l'intérieur. Donc, quand on voit la tête qu'il a, il est mort. Il est tout jaune et tout, c'est pas possible.
Oui, il est tout jaune et tout, mais en tous les cas, il était plein d'allons.
Ah ben, il est méchant. Il est méchant comme. Il a toujours été méchant. Donc,
ils avaient bien remonté la mécanique.
Il est encore plus méchant mort que vivant.
Il était méchant comme tout. À propos de la loi Fallou, là, vous l'avez entendu?
Oui, d'ailleurs, je trouve que. Cette loi Fallou, c'est extraordinaire, parce que on se demande vraiment comment ces gens qui sont au pouvoir... cette réforme de la loi Fallou, parce que c'est pas du tout la loi Fallou.
C'est l'abrogation.
C'est même pas l'abrogation, c'est la réforme, c'est une modification de la loi Fallou.
Qui a déjà été beaucoup modifiée. Hein.
Et alors on se demande comment ils fonctionnent intellectuellement, ces gens-là, parce que... c'était évident que ça allait soulever le mécontentement dans les milieux laïcs, mais en même temps... On ne pouvait pas imaginer que les citoyens seraient imbéciles au point... Parce que quoi que ce soit qu'on pense des citoyens, on ne pouvait pas quand même penser que leur sottise irait jusqu'à ce point-là, jusqu'au point de se laisser embarquer dans une mobilisation générale contre une réforme d'une loi, comme si c'était une atteinte à la liberté de l'enseignement, à la liberté de la laïcité. Or, c'est ce qui est en train de se passer. Alors, depuis qu'ils ont lancé cette idée, aussi bien Bayrou que Balladur ne cessent de faire marche arrière, en promettant...
Ah, les quatre pattes, oh là là.
Justement, il n'y a aucune peur, c'est que la manifestation du 16 janvier tourne à ce à quoi la gauche va essayer de la faire tourner, c'est-à-dire l'amorce d'une petite révolution, d'une révolutionnette 68arde. Ils sont terrorisés à cette idée, et plus ils reculent, et plus l'ennemi, naturellement, avance. Il faut lire, il faut pas l'acheter, parce que c'est vraiment pas possible de donner de l'argent à ces gens-là, mais si vous avez l'occasion de feuilleter, de trouver dans une poubelle ou dans des toilettes de gare le dernier numéro de Globe Hebdo, il faut feuilleter ça, c'est extraordinaire, c'est un torrent de haine anti-catholique. Vous direz, c'est pas surprenant, mais si on écrivait... Dans la presse nationaliste catholique, si on écrivait sur d'autres religions le millième de ce que ces gens-là écrivent sur le christianisme, on irait en tôle, on serait guessotisé immédiatement. Ils ont absolument tous les droits. Et il y a des dessins qui sont des cochonneries immondes, il y a des propos qui sont d'un racisme exacerbé, d'un racisme monstrueux, qui pue la haine. Et tout ça passe très bien. Et les autres, c'est-à-dire Balladur et Bayrou et compagnie, ils sont à plat ventre, ils sont prosternés, ils ne cessent pas de dire « Mais c'est pas la peine de faire cette manifestation, puisque vous voyez, bien sûr on va donner un peu d'argent à ces imbéciles de catholiques, mais vous, on vous en donnez encore beaucoup plus. Tout ce que vous voudrez, on va vous construire des lycées, on va vous repeindre, on va vous habiller les élèves avec des vêtements Benetton et tout ce que vous voudrez. » Et ça ne marche pas, parce que les gens tiennent leur motif de manifestation comme un chien enragé tient son os, et ils ne le lâcheront pas. Et cette manif aura lieu le 16 janvier. Et je pense, quant à moi, je dois dire que j'espère qu'elle sera phénoménale. Parce que
et bien arrosé, moi je serais contente aussi.
Bon, de toute façon, oui, qui pleuvent en plus, oui, j'espère qu'ils attraperont des pneumonies et tout, mais j'espère qu'ils seront très nombreux, nombreux à être malades, et pour que les autres soient très nombreux à avoir peur. Cette situation, la France, vous savez, il y a quelque chose qui se passe en ce moment dans ce pays, tout le monde constate qu'il y a des inondations partout, et qui sont très graves, et on constate que les gens qui sont chargés de surveiller ces événements sont très très surpris de voir que en hiver, premièrement, il fait froid, deuxièmement, il pleut.
Il pleut beaucoup cette année tout de même.
Oui, ils sont surpris de voir qu'il pleut en hiver. C'est très très surprenant. Et comme il pleut, les rivières ont la curieuse manie de déborder. Ça s'est passé quand même à peu près 8 fois depuis le début du siècle, donc aussi gravement, je veux dire. Donc, on devrait quand même commencer à savoir, parce que c'est en moyenne, donc tous les 10 ans à peu près, ou tous les 12 ans, on devrait commencer à savoir que quand il pleut, les rivières ont tendance à déborder. Eh ben non, Monsieur Balladur, l'autre jour, on lui a posé la question, il a dit, comment expliquez-vous ces inondations? Il a dit, vous savez, c'est parce qu'il pleut. Effectivement, c'est très bien vu.
Est-ce que vous avez lu un livre de Monsieur de Saint-Père qui s'appelle Dîner en ville?
Non, je n'ai pas lu ça. Alors, je voudrais terminer.
C'est sur ce sujet-là, il y a un certain nombre de portraits. Et Monsieur Mitterrand, dans un dîner en ville justement, dit à une attachée de presse de Balladur que Balladur fait pleuvoir. Il dit, je suis désolé, depuis qu'il est là, il fait pleuvoir. Il est allé, je ne sais plus dans quel coin, et quand il est arrivé, eh bien la pluie s'est mise à tomber. Monsieur Balladur fait pleuvoir.
C'est peut-être parce qu'il est ennuyeux comme la pluie. Mais justement, symboliquement, on remarque que la France est en train de s'immerger, elle est inondée, elle s'inonde, elle se noie, elle sombre. Mais pas seulement dans les inondations, elle sombre en même temps dans l'immigration. Vous savez que en ce moment, tous les jours, j'entendais ça tout à l'heure sur une radio d'État, il y a 6 à 7 000 personnes qui font la queue devant l'ambassade de France à Alger pour obtenir, ils se battent. Et le journaliste qui racontait les scènes auxquelles il a assisté quand il était à Alger récemment, là, racontait que les gens se battent pour pouvoir entrer dans les services de visa de l'ambassade ou du consulat et avoir des visas pour émigrer en France. Et il racontait des scènes hallucinantes. Il a vu des femmes jeter leurs enfants dans les bras des gendarmes chargés d'assurer la sécurité de l'ambassade pour espérer qu'on les laissera rentrer pour récupérer leurs enfants et qu'elles pourront se précipiter jusqu'au bureau des visas pour obtenir. Donc, on est en train de se sombrer dans l'immigration, on sombre dans la délinquance, on voit tous les jours maintenant, il suffit d'ouvrir un journal pour voir que un lycée a été attaqué ou a fait l'objet un instituteur ou un professeur a fait l'objet d'une agression par des jeunes en bande dans le lycée. On sombre dans la drogue, on sombre dans le chômage, qui est maintenant quelque chose d'irrémédiable, dans les faillites, 70 000 faillites l'année dernière. Et vraiment, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut dire que c'est noircir la situation autant qu'on veut, mais le fait est que ce pays est en train de sombrer littéralement. Et là, à mon sens, l'inondation, c'est une espèce de représentation symbolique de ce naufrage.
Mais la presse n'en parle pas beaucoup de tout ça. En particulier, pour les Algériens qui arrivent en rang serré, le fils, donc c'est quand même des gens du FLN, et Le Pen, dans ses vœux qui n'ont pas été répercutés par la presse, a justement a parlé de ça.
Alors, en ce qui concerne cette question des immigrés, il y a quand même quelqu'un qui en a parlé ce matin, c'est le Figaro avec un dessin.
Avec le dessin de Faisan, oui, c'est ça que je voulais vous dire.
Le fait est que la presse, on est très étonné de voir qu'en France, la presse ne fonctionne pas. Elle ne marche pas pour une raison très simple, c'est qu'elle ne dit rien. Alors les lecteurs sont pas fous, ils vont pas acheter des journaux qui ne leur disent rien. Et par exemple, on voit l'énorme affaire, la gigantesque affaire qu'est l'affaire Mitterrand. Enfin, quand même.
Oui.
Un juge d'instruction. Marc Aymer, bonsoir. Bonsoir à vous deux.
Je ne sais pas lequel est assis sur les genoux duquel, mais en tout bien tout à l'heure.
Bonsoir à vous. Donc, je dis un juge d'instruction demande l'inculpation du président de la République. C'est quand même pas rien. Dans un rapport officiel, ce qu'on appelle un rapport de soi communiqué au procureur, au moment où ce juge d'instruction est déchargé de l'instruction dont il s'occupait pour des raisons strictement administratives, il s'agit de lui confier d'autres dossiers. Je ris parce que je vous explique. Philippe Dounaïev vient de faire son entrée dans le studio et il s'aperçoit, selon la tradition dans cette émission, qu'il a devant lui un verre d'eau.
Mauvaise tradition.
Il a fait une grimace.
Et pour lui, l'eau, c'est quelque chose qu'on met autour des bateaux.
On en prend sur la tête depuis un bout de temps, c'est pas la peine de se mettre en plus derrière la cravate.
Ça fait des inondations.
Ben, c'est toujours ça qui pleuvra pas quand tu l'auras vu. Alors, je reviens à mon histoire. Donc, c'est une affaire énorme. Le Point publie la totalité du rapport du juge Jean-Pierre qui aboutit, qui conclut à la demande de mise en examen du président de la République. Ça devrait faire, on serait aux États-Unis, ça ferait la une de toute la presse. On serait en Allemagne, ça provoquerait un scandale gigantesque, colossal. On serait en Italie, il y aurait eu déjà 14 000 attentats et 233 juges d'instruction assassinés. On est en France, ça fait des entrefilets de quatre lignes.
Non seulement, mon cher Serge, mais j'écoutais en venant, en arrivant en retard à l'émission au milieu des embouteillages, que j'arrive de Ouagadougou, comme vous le savez, que on apprend deux choses, c'est que d'une part, la cote de M. Balladur a encore monté, il approche des 60%, celle de M. Mitterrand, menacé d'inculpation, est à 50%, donc il est au maximum, il est comment, au bout de 13 ans, il est comment, 81, s'il vous laisse représenter une troisième fois, il aura de fortes chances de revenir pour, parlons pas de malheur, mais ça fera cette fois 3,
ben 21. Oui, je suis pas amateur, mais ça je sais. Mon excellent camarade Jean Montaldo, lui, a pris le pari que Mitterrand allait se présenter une troisième fois, en mai. Il serait candidat à sa propre
succession. Jamais 203, vous savez bien.
Et moi j'ai pris le même pari, je dis que c'est tout à fait vraisemblable.
Il aura 108 ans, ce qui est un âge avec maintenant, avec l'augmentation de la durée de vie, c'est très possible.
Ben, quand vous voyez certains jeunes, je pense à Léotard par exemple, quand vous voyez le jeune Léotard, vous vous dites qu'après tout, ça serait pas plus mal de garder le jeune Mitterrand.
Enfin, on sait ce qu'on a.
En tout cas, pour en revenir à la presse...
Et au moins, il a Francisque.
Oui, c'est ça. Bravo, Philippe. Merci. Merci. Je constate que tes interventions sont toujours bienvenues. Oui, c'est ça.
Bref,
mais frappé au coin du bon sens. Donc, je disais quoi, déjà? Il m'a fait perdre mes marques.
C'était très intéressant.
Oui, c'était certainement...
Non, vous parliez du président de la République. Troisième élection, triomphale.
Il sera candidat.
Prendrait un vice-président qui pourrait être Balladur.
Cette presse... ne dit rien de cette histoire. C'est énorme. On lit, écoutez, même le Point qui publie le rapport, le censure. C'est extraordinaire, ça. Parce qu'ils enlèvent des morceaux entiers du rapport en disant, ça, on ne juge pas utile de le faire connaître aux citoyens. Mais de quel droit? Par exemple, ils parlent d'une amie de M. Mitterrand qui a reçu des chèques. Et dans le rapport, il est dit que la maison de Gordes, c'est pas moi qui le dis, c'est le juge Jean-Pierre, la fameuse maison de Gordes,
c'est le Gordes du délit, si je
veux dire. et la résidence habituelle de M. Mitterrand et de son ami IE. Écoutez, moi j'ai quelques amis IE, mais je n'ai pas de résidence habituelle avec elle. Ce sont des amis IE, je pense à Victoria par exemple, qui est une amie. Nous n'avons pas Victoria de résidence habituelle.
Non.
L'amitié amitié entre garçons et filles, comme on disait de mon temps, qui se solde par une résidence. Je ne comprends pas très bien leur histoire. Mais alors, ça doit être quelque chose de parfaitement correct et honnête, parce que je ne vois pas ce qu'on pourrait reprocher au président de la République dans ces matières, si j'ose dire. Forcément, le Point fait apparaître la chose comme douteuse, puisqu'il supprime le nom de cette jeune personne. Cette personne. C'est curieux, pourquoi supprimer le nom de quelqu'un qui ne fait pas de mal? Il m'appelle Madame P.
Comme Jean-Paul Sartre.
Avec tout le respect qu'il
ça commence bien.
Elle est respectueuse.
Alors, vous voyez, donc je vous dis, ça, je ne veux pas faire de la publicité, mais enfin, si vraiment vous voulez acheter des journaux...
trois points.
Oui. Si vous voulez vraiment lire des journaux, alors, il y a un journal...
Apprenez les langues étrangères. Bon.
Vous pouvez en lire d'autres, mais pour ce qui me concerne, je veux dire que le meilleur, c'est un journal qui est décadaire, et qui paraît comme son nom l'indique tous les 10 jours, et
sur papier doré, plus ou moins.
Sur papier plus ou moins doré, sur un joli papier œuf à la coque, ou coquille d'œuf plutôt,
sépia.
Imprimé en sépia, il est ravissant, il est élégant.
Remarquable.
Remarquable.
Monsieur remarquable.
Madame Victoria, vous
un peu vieillot. Et votre mais c'est votre charme, c'est son charme, mais voilà. C'est son charme.
Les chiens, ça fait pas des
chiens. Vous appelez vieillot, nous
ça s'appelle le Libre Journal de la France courtoise. C'est donc un décadaire. L'abonnement est dérisoire, 600 francs par mois. Vous vous rendez compte, ça fait combien? On l'avait calculé, ça ferait 1 franc 87 par jour, même pas. 1 franc 87 par jour. C'est le prix d'une chandelle.
C'est le prix de la moitié d'un faux matin.
Voilà.
Et c'est
en plus, ce n'est pas été financé par
les Suédois. Les...
Oui, je me retiens, je ne le dis pas. Non, parce que j'allais dire escroc, mais... donc je ne le dis pas. C'est ça. Mais c'est Philippe qui me surveille maintenant, parce que lui, il tient les comptes. Et là, quand on fait les comptes à la fin de l'année, il me dit ça nous a coûté très cher. Donc c'est fini. On ne dit plus escroc, on ne dit plus cloporte.
Bon, cloporte, je veux dire, les voix.
Dibrique.
Cloporte ?
Oui.
Mais cloporte, c'est juste un animal charmant.
Ben oui, mais ça vaut dibrique.
Dibrique, c'est charmant, mais c'est cher.
Cloporte, c'est plus cher qu'un éléphant. Ah, oui. Cloporte, c'est presque. Ça porte cher.
Oui, ça. Voilà, donc il faut être prudent. Alors je ne le dirai plus, alors je ne dis pas escroc, par conséquent, mais en tout cas, mon journal coûte moins cher que des journaux qui ont été financés par des gens. Voilà. Alors il paraît tous les 10 jours.
Et comme la plupart des décadaires.
Comme la plupart des décadaires.
Et dans le dernier qui est paru.
Mais ce n'est pas un décadaire décadent.
C'est contre la décadence.
Et dans le dernier qui est paru, moi j'ai lu un éditorial qui m'a bien plu sur. Ça s'intitule Lâche et criminel. Et justement, vous parlez de.
Les médias, c'est une redondance,
les médias ne parlent jamais. Vous parlez des batailles rangées qui ont eu lieu à Bruxelles entre les Kurdes et les Turcs.
Personne n'a entendu parler. Personne n'a parlé de ça. Et pendant trois nuits, il y a 15 jours, la ville de Bruxelles a été en proie.
Ça fait rire Philippe. Oui, c'est la capitale de l'Europe, je ne voyais pas ce que vous avez dit. Les Kurdes.
La capitale, mais vous savez pourquoi? Parce que les Kurdes sont allés en délégation à Bruxelles pour exiger que l'Europe prenne position dans le conflit qui les oppose aux Turcs.
Ils sont la tête de Kurdes des,
voilà.
Des Turcs.
Alors, arrivés là-bas, ils se sont installés. Naturellement, ils ont tenu une manifestation, kermesse. Une espèce de kermesse, de congrès, ou je ne sais quoi, au cœur du quartier turc.
Oui.
Parce qu'il y a à Bruxelles un quartier turc.
Klerenburg,
probablement Klerenburg. Et qu'est-ce qu'ont fait les Turcs quand ils ont vu les Kurdes venir tenir une manifestation au cœur de
Turc.
Ils ont encerclé. Et ils ont voulu les battre.
Une sorte de
qu'ont fait les policiers belges.
Ethnique.
Voilà. Ils ont voulu faire de l'épuration ethnique. Qu'ont fait les policiers belges. Ils ont
deux fois
tort. Ils se sont mis entre les Turcs et les Kurdes.
D'autant plus, attendez, que leur chef n'est plus là, le général, le plus haut gradé de l'armée belge, et donc voilà. Il doit superviser la police par une occasion dans une dictature comme la Belgique, oui. est à Sarajevo, comme vous savez.
Et ils se sont mis entre. Alors, résultat, ils ont eu 15 blessés. Ça a été. Mais trois nuits de suite.
Pas de...
Il n'y a pas eu, enfin moi j'ai pas vu, je sais pas, est-ce que vous avez vu une image sur les
dans les journaux kurdes, oui.
Mais...
Ah, dans la
presse
kurde. Toi, tu as l'électricité quand même, Denis.
Depuis peu.
Voilà. Donc,
mais un jour, toujours pas.
Mais franchement, personne n'en a parlé, aucun journal. Bon. Donc il y a évidemment une censure, ça c'est parfaitement clair. Quand on voit, il faut lire les papiers entre les lignes. La bande ethnique qui a attaqué une classe. Qui a passé à tabac le professeur et qui s'est débiné. Ça a été annoncé dans les journaux avec peu de détails. Il faut vraiment lire entre les lignes pour comprendre de quelle bande il s'agit. Parce qu'à la fin du papier, tout à fait à la fin du papier, d'un des papiers, on apprend que cette bande qui sévit dans le quartier est l'héritière de la tradition Zoulou. Alors, vous vous dites, bon, c'est pas des Norvégiens, forcément.
Rarement.
Hein. Zoulou, c'est pas tellement norvégien.
Je crois pas.
Donc, de là, vous allez assez rapidement.
Des Zoulou-bars de banlieue.
Des Zoulou-bars. Voilà. Donc, ne lisez pas n'importe quoi. Tiens, écoutez, je vais vous dire les choses clairement. Lisez donc le Libre Journal à France courtoise. L'adresse est 68 rue David Dange. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est pas compliqué.
Si, il y a National Hebdo.
Ah, pour les militants du Front National, ça, c'est autre chose.
Mais
moi, je m'adresse.
Seulement pour les militants du Front National. Les gens, par exemple, qui, pour la loi Fallou, ils ont souffert d'entendre le président de la République expliquer qu'il était, lui, pour l'école. François Brignoux le reprend avec vigueur. Alors. Par exemple, quand Mitterrand parle de la République sociale, indivisible, il dit, voyez l'Algérie, laïque, elle n'est pas tolérante, et même elle est terroriste. Il y a un excellent papier, là, que vous pouvez lire.
Il y a un bon papier de Brignot.
Très, très bon papier de Brignot.
Voilà. C'est incroyable. Pratiquement,
National Hebdo, 7 terres pour des petites écuries.
Je vais essayer de le prendre. Il est bien, je crois que c'est un bon...
Un petit jeune qui monte.
Un petit jeune qui monte. Je vais essayer de l'avoir dans mon cyclope.
Et oui, et oui.
La bicyclette.
Ah, mais... Ah, mais c'est clair. Alors, donc, je termine quand même. Si vous ne lisez pas National Hebdo, vous êtes... Puis même si vous lisez National Hebdo, vous avez toujours la ressource de lire le Libre Journal. 68 rue David Danger, 75-019 Paris. On envoie des spécimens sur demande. Si vous joignez des timbres, c'est encore mieux. Et si vous voulez vous abonner, c'est 600 francs. Si vous voulez vous abonner moins cher, c'est 60 francs, 10 fois, 12 fois... ou toutes les façons que vous voulez. Enfin, vous envoyez de l'argent, on vous envoie le journal. En gros, c'est ça, à condition qu'à la fin de l'année, vous ayez reçu 34 journaux et nous, 600 francs. C'est un système simple. Hein. Vous êtes abonné, monsieur Deneyev ?
Oui, monsieur de Becquet.
C'est bien, vous êtes un ami, hein. Monsieur Amère est abonné.
Je reçois parfois...
J'aimerais l'être.
En un exemplaire, parfois en deux exemplaires, parfois en trois exemplaires. Jamais, pas du tout, ça c'est,
bon,
c'est le produit.
Alors, c'est bien.
Moi, vous m'en faites cadeau, alors je ne suis pas abonné.
Trop fort n'a jamais manqué. Bon, alors on parle d'autre chose. C'est bien. Alors, j'ai dit que Marc Aymer et Mathieu Huguenet, pardon, étaient là.
Les mêmes initiales, c'est un autre évangéliste, mais c'est aussi bien l'un que l'autre.
Mathieu Huguenet est là parce qu'on va parler de deux choses, de deux sujets dont il est spécialiste. On va parler de l'Amérique centrale et on va parler de la bourse. Vous me direz, ça n'a pas grand-chose à voir.
Il y a des bourses en Amérique.
Il y a des bourses
centrales, si on y est.
En Amérique centrale, et il y a même des Américains centraux dans les bourses.
Voilà.
C'est même une chanson, d'ailleurs. En quoi que ce n'est pas tellement l'Amérique centrale. Revenons à l'actualité. Victoria, non, plus d'actualité ?
Je ne sais pas, moi, vous
non,
êtes
Non, c'est parti, parce qu'on peut...
Vous êtes parti, alors moi, je suis aussi.
Mais non, j'ai fait une petite, une petite incise.
Nous travaillons dans l'incidente.
Une petite incidente, voilà.
Mais je ne sais pas de quoi vous voulez nous parler maintenant.
Ah ben non, je ne sais pas, moi c'est vous qui posez la question. Moi je voudrais dire quelque chose. Bon, alors s'il n'y a plus de questions, je voudrais... on parlait à l'instant de certains propos qui sont tenus sur dans certains journaux, certaines radios. Je voudrais vous faire écouter quelque chose. Vous allez voir. Écoutez bien.
Il y a un certain nombre de bateaux qui quittent Cannes pour le grand large. Imaginons que vous puissiez affréter un bateau, Arte par exemple, un bateau, et que vous ayez une seule personne à mettre dedans avec un seul espoir, c'est que le bateau coule. Qui aimeriez-vous mettre à bord ?
Un pire ennemi ?
Non, mais ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas aimé dans l'histoire. Un déjà mort.
Ah oui, bah évidemment, la facilité serait de répondre à Hitler ou des gens comme ça, quoi, des espèces de grand destructeur terrible, quoi, vraiment, ça, oui, ça je penserais, je peux, spontanément, vous voyez, c'est le nom qui me vient à l'esprit. J'en ai pas d'autres pour l'instant.
Ouais, alors on l'invite,
hein?
Invitez-le cet après-midi.
Oui. Ou alors, je pourrais peut-être vous dire aussi Jésus, parce que...
Voilà, vous avez bien entendu, je vais vous le faire réécouter parce que ça vaut quand même le voyage, vous voyez, c'est... Alors je résume le propos du personnage qui vient de parler. On lui dit, si vous pouviez mettre dans un bateau dont vous êtes sûr qu'il va couler, quelqu'un que vous détestez particulièrement et dont vous voudriez qu'il meure, qui mettriez-vous ? Alors il répond, là la facilité, ce serait de dire Hitler. Et puis on lui dit, oui, mais et quelqu'un d'autre ? Et il dit Jésus.
Alors, tout le monde, Serge, qu'il a, que ce type est totalement analphabète, qui n'a même pas lu les livres, quatre livres agréables à lire et intéressants qui sont les évangiles, il aurait appris que de toute manière,
ça sert à rien.
Dans son bateau, si le bateau coulait, il n'y avait pas de danger, il marche
rentrer
sur l'eau.
À pied. Premièrement, il pouvait rentrer à pied. Deuxièmement, il s'agit de monsieur Jérôme Clément. Alors monsieur Jérôme Clément, c'est pas n'importe qui, c'est une grande personnalité du régime. Oui, bien sûr, personne ne le connaît parce que
parce qu'on est du mauvais côté du régime.
Mais enfin, c'est un des grands patrons de la télévision, c'est un des patrons d'Arte, c'est un des patrons du Festival de Cannes, c'est le patron du Festival de Cannes. C'est un ancien collaborateur, comme ça se prononce. C'est un ancien collaborateur de Pierre Mauroy.
Il a des références, en fait.
Oui, il a des références. Il a des références. Et sa sœur, qui s'appelle Catherine Clément, c'est pareil, quoi. Enfin, je ne veux pas rentrer dans le détail, si j'ose dire. Si vous voulez en savoir plus sur la famille Clément, vous lisez l'encyclopédie politique d'Emmanuel Ratier ou le Libre Journal, le prochain numéro du Libre Journal, où vous aurez toutes les informations que vous pouvez souhaiter sur ce personnage.
Donc, comme nous.
Mais voilà ce qu'on entend aujourd'hui. Enfin, on a entendu ça il y a quelques jours sur France Inter, c'est-à-dire sur les ondes de la radio d'État. C'est la radio que vous payez, que je paye, avec votre fric, avec mon fric, nous, catholiques français, nous filons du fric pour que ce genre de personnage puisse dégueuler ce genre d'ordure au micro de France Inter. Alors, je vais vous faire réentendre ce que dit M. Jérôme Clément, éminent personnage de la République. Bon, bien, écoutez donc, parce que je vais me mettre en colère.
Il y a un certain nombre de bateaux qui quittent Cannes pour le grand large. Imaginons que vous puissiez affréter un bateau, Arte par exemple, un bateau, et que vous ayez une seule personne à mettre dedans avec un seul espoir, c'est que le bateau coule. Qui aimeriez-vous mettre à bord ?
Mon pire ennemi ?
Non, mais ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas aimé dans l'histoire. Un déjà mort.
Ah oui, bah évidemment, la facilité serait de répondre à Hitler ou des gens comme ça, quoi, des espèces de grands destructeurs terribles, quoi. Vraiment, ça, oui, ça, je penserais, spontanément, vous voyez, c'est le nom qui me vient à l'esprit. J'en ai pas d'autres pour l'instant.
Ouais, alors, on l'invite.
Hein?
Invitez-le cet après-midi.
Ou alors, je pourrais peut-être vous dire aussi Jésus. Parce que, à cause de tout ce qu'il a pas réussi depuis qu'on croit en lui.
Alors, dernière question, imaginons que...
Voilà, c'est un monsieur qui veut noyer Jésus. Alors, je le répète à ce monsieur Jérôme Clément, c'est complètement idiot. D'une part, d'abord, c'est superfétatoire et c'est idiot. D'une part, parce que comme l'a fait remarquer Mathieu Huguenet, si le bateau coule, Jésus entrera à pied. Et deuxièmement, parce que les ancêtres, monsieur Clément, ont déjà fait mieux que le noyer, ils l'ont crucifié. Donc, ça fait peut-être un peu beaucoup. Je sais bien que l'autre jour, le rabbin Citruc voulait faire passer en justice le cadavre de monsieur Bousquet, et qui donc, il y a une espèce de tradition, là, de tuer les morts ou de les faire passer en justice. Mais ça me paraît, je le dis encore une fois, superfétatoire. Et en tout cas, ça me paraît scandaleux, de tenir ce genre de propos à la télévision ou à la radio d'État. Et il me paraît révoltant qu'un personnage de ce calibre puisse occuper des fonctions dans la télévision d'État. Avec notre fric, monsieur Jérôme Clément, il est payé par nous, il est notre employé. Il est l'employé des contribuables français dans un pays qui reste quand même, que ça plaise ou non, majoritairement catholique, en tout cas de tradition catholique. Et il n'y a aucune raison pour que ces gens-là viennent nous insulter, nous vomir leur haine à l'antenne des radios d'État en permanence. Il va un jour falloir que ces choses-là s'arrêtent, parce que autrement, je le dis avec tout le calme dont je suis capable, ça finira très 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 mal. On ne peut pas impunément injurier les gens à longueur de vie sans qu'un jour ça vous revienne dans le pif à la vitesse d'un cheval au galop. Ça, c'est très très dangereux. Et c'est vraiment, je le répète, c'est très dangereux. Et pourtant, l'expérience montre que c'est très dangereux. Ça finit toujours très mal, ce genre de conneries, d'une façon pratiquement pendulaire. Hein. Vous savez, alors, donc voilà, prudence et circonspection.
C'est too much.
Trop, c'est trop. Tiens, je voudrais vous lire autre chose. J'ai reçu un document qui est tout à fait intéressant, et d'autant plus intéressant qu'il est confidentiel. Alors, je le lis exactement comme je l'ai sous les yeux. C'est une feuille rose de format 21-29-7. Et on lit dessus. Ministère du budget, direction de la comptabilité publique, sous-direction D, bureau D1-D2, classement M0203. Note de service confidentiel numéro 93-4-M0203 du 6 décembre 1993. Ah oui, je vous épargnerai pas une référence. Texte non publié au bulletin officiel de la comptabilité publique. C'est imprimé tout ça. Hein. J'en prends à témoin, Mathieu.
Sur papier rose.
Sur papier rose. Texte non publié. Recouvrement à l'étranger. Analyse. Recouvrement amiable des créances françaises en Algérie. Créances hospitalières. Document à annoter. Instruction confidentielle numéro 88-2M0203 du 19 janvier 1988. Instruction confidentielle numéro 8819M0203 du 17 novembre 1988. Destinataire pour application, alors là suit une palanquée d'initiales que je ne vais pas vous lire, diffusion GT, ACT, TOM, RGP, CSOM, enfin, patin et couffin, etc. La présente note de service confidentiel a pour objet de rappeler aux comptables de la comptabilité publique, je précise, les dispositions prévues par l'antépénultième paragraphe, ça doit être le dernier français qui utilise le mot antépénultième.
C'est moi.
Avec vous, voilà. Prévu par l'antépénultième paragraphe de l'instruction confidentielle numéro 98-2-M0203 du 19 janvier 1988, et par l'instruction confidentielle numéro 8819-M0203 du 17 novembre 1988 demeurent applicables jusqu'à nouvel ordre. Donc cette note rappelle que les dispositions demeurent applicables. Alors, vous allez dire, on ne comprend rien. Moi non plus.
Come to the point.
Voilà. Et ben, here we are. En conséquence, il convient de ne pas adresser au payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie les poursuites extérieures aux fins d'un recouvrement amiable de créances hospitalières sur des nationaux algériens lorsque celles-ci ne sont pas accompagnées d'une autorisation de transfert délivrée par les autorités algériennes avant la sortie du territoire algérien. Signé le directeur de la comptabilité publique, pour le directeur de la comptabilité publique, le sous-directeur chargé de la sous-direction
pour le sous-fifre,
monsieur Chazeau, C-H-A-Z-E-A-U.
C'est l'empire du sous-fifre.
Alors, je traduis. Autrement dit, quand un Algérien est dans un hôpital français qui ne paye pas son hospitalisation,
on se le met dans...
Normalement, la loi française prévoit qu'on expédie
du papier,
au comptable de l'ambassade de France en Algérie une facture que le dit comptable fait parvenir à l'État algérien qui paye. Bon, et bien là, on dit ne le faites pas, premièrement. Et deuxièmement, on dit ne le dites pas, car cette note est confidentielle et elle, c'est un texte, le numéro 93-4M0203 du 6 décembre 93, c'est un texte non publié au bulletin officiel de la comptabilité.
Je remercie que la couleur du papier permet de voir l'origine et les intentions du sous-fifre lampiste qui l'a signé.
Alors, c'est comme ça qu'on marche en France. Vous voyez, moi j'aime bien ça, parce que en France, j'avais deux gamines qui veulent aller à l'école avec un foulard sur la tête. Qui ça regarde, à part ces gamines-là, vraiment personne. Moi, personnellement.
Si les profs, moi, ça m'agacerait.
Oui, d'accord. Ben, ouais. Victoria, ça vous énerve, mais.
Ça leur évite de prendre froid.
Qu'est-ce que ça peut vous foutre, franchement, d'avoir deux élèves avec un foulard sur la tête dans une classe? Ça me paraît vraiment tellement ridicule et subalterne. En tout cas, c'est comme ça. C'est ridicule. Ça n'ennuie personne, ça ne gêne personne. Sinon, un prof est souillard ou un instituteur.
Un petit instituteur. Alors, avec des chapeaux pointus.
Eh ben, il se gêne.
Très joli. Il y en a qui arrivent avec des petits.
Et là, vous avez c'est le banc et l'arrière-banc qui se mobilisent. Tout le monde nous dit, mais alors, c'est scandaleux, professeur en grève, élèves chassés de l'école, on mobilise, on arrête les parents, on les interroge, on arrête l'imam qui s'occupe des petites filles et tout, on l'expédie, on l'expulse, c'est un grand scandale. Deux Iraniens sont en France en prison pour assassinat. Les Suisses demandent qu'on leur remette puisqu'ils ont assassiné en Suisse. Hop, on les file, on les libère.
Le terrorisme suisse est beaucoup moins redoutable que le terrorisme.
C'est pas pareil.
Et les Algériens, l'État algérien, on lui dit surtout ne payez pas vos dettes. Ces connards de contribuables français ont suffisamment de fric pour payer l'hospitalisation des ressortissants algériens en France. C'est évident.
C'est les beurs et l'argent des beurs.
Mais seulement, on se dit quand même, attention, il ne faut pas que les Français le sachent. Donc, ça s'appelle une circulaire confidentielle, note de service confidentielle, et c'est non publié au bulletin officiel de la comptabilité publique. Voilà comment marche ce pays.
Je vais vous dire, depuis que j'ai appris ça, je ne lirai plus le bulletin officiel de la comptabilité publique.
En plus,
je me cache tout. Je ne le lirai plus.
Quand je vous dis qu'on ne trouve rien dans les journaux, la preuve, même dans le bulletin officiel de la comptabilité publique, vous devrez tout y avoir. Vous ne trouvez pas des informations qui concernent la direction de la comptabilité publique. Et ça, vous le trouverez dans le Libre Journal, 68, rue David Danger, 75-019 Paris. Donc, plutôt que de lire le bulletin de la comptabilité publique, lisez le Libre Journal.
Moi qui connais les deux, les illustrations sont bien mieux chez vous que dans le bulletin de la...
On peut s'abonner au Libre Journal ?
On peut s'abonner, il suffit d'envoyer 600 francs.
La comptabilité aussi, si vous voulez.
Je ne sais pas si on peut s'abonner.
On peut s'abonner à tout, aux journaux officiels, on s'abonne et on reçoit chez soi tous les matins. Avec le petit déjeuner, vous charmez ça, savoir.
Voilà. On vous trompe. Je vous le dis, on vous trompe, on vous ment tout le temps. On vit dans un univers de mensonges complets. Même les fonctionnaires cachent les activités, leurs actes de fonctionnaires, qui sont des actes officiels pourtant. C'est tout à fait étonnant.
Écoutez, je ne sais pas, je vous passe le journal, vous regarderez ça.
Mais dès que nous avons fini notre entretien sur quelque chose qu'il faut lire, alors, et qui est la lettre confidentielle d'information, non pas religieuse comme Marc Dem, mais d'information financière que vous dirigez, que vous rédigez, que vous réalisez.
Cook. Voilà. And bottle washer, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que je fais tout, je l'écris à la main, mais à la main, avec un sur mon ordinateur, j'ai les informations, et à la limite, je l'envoie de la main à la main à mes multiples abonnés. Depuis 8 ans, j'en ai ruiné peu, et je crois que j'ai fait gagner assez d'argent à ceux qui seraient abonnés, la preuve. Et je dois dire qu'il se crée depuis que je la fais, ce qui s'y prend beaucoup de temps, mais qui se crée une sorte de relation d'amitié entre les lecteurs et moi. Peut-être je ne dirais pas que c'est la meilleure lettre de toutes, c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas elle est différente et elle crée un rapport direct et fructueux pour ceux qui la lisent et qui s'y abonnent, puisqu'il ça leur permet, dans la mesure du possible, comme je le dis dès le début, de précéder la bourse. Et la seule manière de précéder la bourse, de gagner en bourse, c'est de la précéder, non de la suivre. De la précéder quand elle s'apprête à monter et de la précéder également quand elle s'apprête à descendre.
Alors, la question que tout le monde se pose d'une façon plus ou moins sophistiquée ou d'une façon plus ou moins, comment dirais-je, artificielle, elle est très simple, plus ou moins déguisée, je veux dire, au lieu d'artificielle. Il y a une chose qu'on ne comprend pas, c'est que dans ce pays qui est dans un état économique de quasi-catastrophe, de quasi-cataclysme, la bourse continue à gagner de l'argent. Alors, est-ce que vous pouvez, Mathieu Huguenet, qui fréquentait la bourse, qui étudiait le fonctionnement des instituts financiers depuis, au moins 25 ans, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se fait? Comment il est possible que dans un pays où il y a probablement 7 millions de chômeurs, probablement 8 millions d'immigrés, comment il est possible que la bourse monte sans
non
arrêt?
Non seulement spécifique à la bourse française, c'est spécifique à l'ensemble des bourses occidentales, les bourses européennes entre autres. L'Europe va mal, l'Allemagne va mal, la bourse allemande se porte bien, la France va très mal. Je viens de m'apercevoir qu'on espère cette année les choses vont mieux. Vous avez vu que M. Balladur aujourd'hui a dit qu'on n'était jamais été si près du mieux. On va très mal, mais on va vers le mieux, du coup, donc il est à 60% de
millions favorables. Il y a forcément un moment où ça ira mieux.
Ah, on n'a jamais été si près de la fin.
Quand le gars s'écrase sur le trottoir en tombant du 15e étage, d'un seul coup, il va moins vite, la chute est moins rapide.
Vous savez ce que disent les médecins? Non, ce que disent les médecins dans le cas des suicidés, c'est qu'on sauve souvent un apprenti suicidé à la 17e pilule qu'il a avalée, mais jamais après le 17e étage. Donc dans le cas de la France, donc on a une bourse qui a pris en moyenne près de 25% pour l'ensemble des valeurs l'année dernière. On a une économie qui se traîne. On espère l'année prochaine, et c'est pourquoi M. Balladur est si joyeux, c'est aujourd'hui, et on espère atteindre 0,9% de progression. Quand dans le même temps, la Chine est autour de 20%, et en même temps, et sectoriellement, on s'aperçoit que dans l'année qui vient, selon les chiffres les plus optimistes, l'informatique va baisser de 7%, l'électronique de 6%, le matériel électrique de 4%, les composants de 5%, le matériel téléphonique, etc., etc. Donc tout va de mal en pire. On arrive vaguement, avec beaucoup d'espoir, si on est le plus optimiste possible, à estimer que ça ne sera pas pire en 94 que ça n'a été en 93, en ajoutant à cela, bien entendu, l'augmentation du chômage. Et pendant ce temps-là, la bourse de Paris va de record en record, si ce n'est tout de même qu'aujourd'hui, elle a baissé de 2,5%, apparemment, prétend-on, sur des prises de bénéfices, mais pas forcément, car une chose est connue, c'est que les actions ne montent jamais jusqu'au ciel, mais qu'elles descendent parfois jusqu'en enfer. On l'a vu en 29, on l'a vu en 87. Donc on boit très souvent, on gagne souvent beaucoup d'argent en bourse, mais il peut arriver, si on en sort pas trop tôt, qu'on en perde beaucoup. Et c'est toujours, enfin, je veux dire, et c'est l'utilité d'une lettre comme la mienne d'apprendre aux... j'ai dans mes abonnés des moyens porteurs, mais j'ai des banquiers, des banquières, la meilleure, entre autres, la meilleure spécialiste de la bourse française, est abonnée à la lettre, et elle l'aime beaucoup, qui est Monique Bourvenne. J'ai eu Madame Beau,
qui est autrefois ah, mais oui. Je crois que Goldsmith lui donne plus d'argent ou Tapie ne lui en donne plus, donc elle a pas pu s'abonner vu les, ça coûte 2000 francs par an, mais 200 francs d'essai pour 4 numéros, et vous pouvez m'envoyer un, je vous donnerai les adresses tout à l'heure, ou Serge vous les donnera, et je peux vous envoyer un numéro spécimen qui sera le dernier paru, donc pas le numéro d'il y a 15 jours, d'il y a 3 mois, etc. Donc je pourrai juger sur pièce. Le arrive vers la, dans c'est valable pour l'ensemble des bourses, elles montent sans raison, l'ensemble des bourses occidentales, je parle, et particulièrement européennes. C'est totalement différent pour les bourses des marchés en émergence, entre autres, les bourses des petits dragons du sud-est asiatique et les bourses sud-américaines, qui elles montent pour des raisons objectives. Sinon, théoriquement, une bourse, une action devrait monter quand les résultats de l'affaire dont elle représente une partie du capital s'améliore. Donc le titre Duchnok, la maison Duchnok qui fabrique des porte-jartelles a vendu 200% de plus de porte-jartelles et le titre monte de 200%.
Mais c'est pas comme ça que ça marche.
C'est pas, surtout que les porte-jartelles marchent mal, je vous l'expliquerai plus tard.
C'est
la logique.
C'est pas fait pour marcher.
Quand une économie marche bien, la bourse française, donc la bourse, imaginons que la France augmente de 10% son produit national brut, la bourse pourrait monter, puisqu'on est toujours un peu plus optimiste, de 15% dans l'année. Or là, c'est le contraire. Mais ce qui se passe, c'est que c'est une machine, d'abord, premièrement, il faut se rappeler que la bourse est comme la danse, on danse fort bien sur les volcans. Au bout du compte,
pareil, j'ai jamais essayé, mais
c'est vrai que c'est très agréable. En plus, il y a un rythme volcanique, une blonde volcanique, et on danse avec une blonde volcanique sur le volcan. On se brûle les pieds, etc. Et puis après, ça saute, ça pète. Là, la bourse est un peu comme ça. Il y a en plus une c'est une machine à ne rien faire qui se fabrique elle-même ses hausses. Spécifiquement dans le cas de Paris actuellement, il y a eu depuis plus le matraquage. Bon, les Français ont découvert il y a 5 ans un produit nouveau qui existait déjà en Suisse aux États-Unis, qui était le fameux fonds commun ou SICAV monétaire. C'est-à-dire qui vous permettait à moi ou à des épargnants qui n'avaient pas 100 millions de francs à mettre ou 100 millions de dollars à mettre sur le marché monétaire, d'avoir les mêmes avantages. On coupait en tranches les papiers monétaires que les grandes banques ou les milliardaires dans lesquels ils investissaient, ce qui permettait au jour le jour de mettre leurs liquidités, de les placer suivant le marché monétaire, c'est-à-dire suivant l'évolution du marché monétaire à 15%, à 12%, à 8%, suivant l'évolution de ces marchés monétaires. Les particuliers, eux, ne pouvaient pas, car la part de ces était trop élevée. En créant des fonds communs ou des SICAV, prenant ces papiers monétaires, des rémérés, etc., et les coupant en tranches pour les vendre en part des particuliers, les particuliers ont brusquement pu accéder à ce que les patrimoines importants ou les grosses sociétés faisaient depuis tout le temps. Donc ça a été une véritable démocratisation du capitalisme, un capitalisme populaire. Au grand dam des gouvernements, et surtout au grand dam des banques, car les banques, c'était un produit généralement qui leur coûtait. Tout ce qui partait dans les monétaires n'allait pas vers le petit produit, excusez-moi la trivialité, mais merdique, ou les assurances, les produits d'assurance, qui sont généralement des produits...
les placements de père de famille.
Voilà, les produits à trappe-bourreaux, et surtout qui vous obligent dans une situation aussi fluide que la situation actuelle, quand je dis actuelle, c'est la situation depuis 10 ans, d'investir à long terme. C'est le gros problème des PEA, c'est que ça vous oblige à investir à long terme. Pour tirer les avantages fiscaux au bout, il faut les garder plusieurs années. Or, je peux, et je le dis toujours dans ma lettre, je peux prévoir éventuellement, dans la mesure du possible, ce qui va se passer à la bourse de demain, à la bourse dans 15 jours, à la bourse dans 3 mois ou dans 6 mois. Je peux difficilement vous dire ce qui va se passer dans un an.
Oui, non.
Car vous voyez avec l'Excelsior, il ne voyait pas en janvier ce qui allait se passer au mois de
juin. C'est ça. Bon, pourtant, c'était plus important qu'une chute ou d'une hausse.
Bien sûr. Mais alors,
Marc, justement, à ce propos, il y a même des choses qu'on croit pouvoir prévoir et puis qui se révèlent. Des prévisions qui se révèlent totalement erronées à quelques jours, puisque j'ai appris récemment que la veille ou l'avant-veille du départ de Balladur en Arabie Saoudite, les actions de Thomson avaient gagné 10%, parce que tout le monde se disait Balladur va signer des gros contrats Thomson avec les Saoudiens.
C'est des contrats aussi intéressants que le contrat du TGV coréen. Baladur est le plus gigantesque, c'est Michelin. J'entends le Michelin, c'est le bonhomme, le bibindam. C'est pas Michelin, Michelin, une affaire qui redeviendra bonne. Mais c'est le ballot d'air, comme on dit en anglais, gonflé de sa propre, non pas d'air, mais gonflé de sa propre suffisance, qui croit. Alors, c'est merveilleux, les Français sont très contents, il ne fait strictement rien. Donc, comme il ne fait rien, il ne gêne personne.
Mais là, il a fait monter la bourse, quand même.
Mais il fait monter la bourse, il fait donc, il part en Arabie Saoudite, tout le monde dit qu'il va ramener des fabuleux contrats, ils étaient presque plus ou moins signés, le roi Fahd, qui est tout ce qu'on veut, sauf un imbécile, l'a renvoyé chez lui, sans contrat, sans rien.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça ressemble quand même, ça, un petit peu à ces histoires d'initiés dont on nous parle. Au fond, quelle est la différence? Voilà, quelle est la différence entre votre lettre et...
La seule différence, je vais vous dire. On ne gagne en bourse qu'en étant initié. Point final. Sûrement, point final. Alors, le problème, l'initié... Quand moi, j'écoute, je déjeune au Phuket, si j'arrive à en sortir vivant, parce que vous avez vu ce qui se passe au Phuket.
Oui, si vous aimez les cafards, mais pour quelqu'un qui a beaucoup vécu en Amérique du Sud...
Un Kukalach, c'est très agréable. En plus, on peut danser et tout. C'est une merveilleuse affaire, l'affaire du Phuket, on en parlera tout à l'heure, si vous voulez. Mais donc, c'est très dangereux d'aller dans les restaurants chers, mais on peut écouter ce qu'on dit à côté. Alors que je peux entendre le patron de la société, ne citons pas de nom, mais la société MKZ et la société BQZ disant je vais te racheter, l'exercice qui vient, on a pris 300% d'augmentation, ça va être rendu public des bénéfices, ça va être rendu public dans 15 jours. Vous écoutez ça et vous achetez les actions. Vous n'êtes pas un initié, vous êtes un informé, mais si ces deux messieurs qui sont les patrons de l'affaire s'achètent leur propre titre parce qu'ils savent ce qui va se passer, eux, c'est des initiés. Ce qui n'empêche pas que c'est ce qu'ils font en permanence.
Mais bien sûr.
Parce que quand vous êtes patron d'une grosse PME cotée, que vous savez que vos actions, que vos affaires sont bonnes et qu'elles vont être connues, vous arrangez pour ramasser sur le marché un petit peu de manière à l'action va.
Si vous êtes malin, vous faites acheter ça par vos enfants. Oui, puis vous revendez à Pola ensuite.
Il est même connu, mais même c'est même pas ce qui se passe par exemple avec Toys R Us, vous savez, qui est une excellente affaire que j'ai conseillée récemment. Ils sont en train de racheter leurs actions parce que les affaires vont très bien. Ils se rachètent, mais ça c'est tout à fait légal. Donc, ils rachètent leurs actions tant $2.50, elles vont valoir $5 dans 2 mois, très bien. Mais c'est une affaire d'initié. Alors, on tape sur les affaires d'initié. Moi, je veux dire que personnellement, si on a une bonne affaire et qu'on le sait, pourquoi ne pas l'utiliser? On fait plein d'histoires, c'est surtout les Américains qui...
Alors vous, au fond, vous êtes une espèce de Saint-Bernard de la finance, parce que quand vous êtes initié... que vous avez une information, au lieu de placer votre argent dans l'information et de la garder pour vous-même, vous la vendez...
Ça me prend beaucoup de temps de m'occuper de cette lettre. Déontologiquement, remarquez, c'est également interdit, et ça je peux d'autant le dire parce que c'est vrai que je ne le fais pas. Bien, j'en ai envie, mais c'est... Bon, il est interdit, donc je vais dire que telle action, faire un gros paquet sur telle action, et puis 2 jours avant l'apparition de la lettre, je vais en acheter. Moi je préfère souvent acheter un tableau que vous connaissez l'histoire des chirurgiens, je veux dire, le chirurgien, ça les passionne, la chirurgie, ils font des opérations magnifiques, mais le jour où il faut qu'ils se perdent l'appendicite, ils ne le font pas, ils font venir quelqu'un d'autre. Moi, c'est un peu la même chose. Et puis, vous savez, j'ai atteint le sommet de la fortune, un peu plus, un peu moins, à quelle importance. Mais pour en revenir, et puis pour être observateur, il faut pas être belligérant, comme dirait les soldats des Nations Unies. Donc je suis une sorte de casque bleu de la bourse, mais avec plus de succès que le général Braquemont, j'espère, ou le général Cotte. Et il faut dire que je n'ai pas Boutros Ghali derrière moi, bien que j'en ai d'autres. Alors pour revenir aux raisons donc de la montée actuelle de la bourse, on a matraqué les SICAV On a fait baisser le plafond d'exonération de 300 000 et quelques à 160 000, et maintenant, cette année, à 100 000 francs.
Ça, c'était pour l'emprunt de la dure, sauf erreur.
Ah non, du tout. C'était pour, entre autres, pour justifier le faible taux de l'emprunt baladure. Maintenant, les SICAV monétaires sont tombés à 6%. Mais les SICAV obligataires, qui, elles, rapportent encore du 10%, sont également sous le même plafond de 100 000 francs ou 200 000 francs pour un couple. Et n'oubliez pas que si vous vendez 100 000 francs, ou l'année précédente, vous vendez 160 000 francs. Très bien. Vous n'êtes pas imposé. Mais si vous vendez 161 000 francs, ne croyez pas que vous êtes imposé sur
1 000 francs.
Vous êtes imposé sur 161 000.
C'est très bien, je trouve.
C'est absolument.
Je trouve ça délicieux.
Absolument génial. Alors,
bon.
Et donc, comme les Français qui ont été matraqués par. Les journaux passent leur temps, les journaux financiers passent leur temps à leur dire. Que c'est très mal, qu'ils peuvent avoir autre chose, qu'ils peuvent faire autre chose, et qu'il faut qu'ils vendent. Ben, finalement, au bout d'un certain temps, à force, ils finissent par croire les journaux. Moi, je ne leur ai jamais dit. Donc, en tout cas, mes lecteurs n'ont pas vendu. Ils vendent ou alors ils les arbitrent contre les obligataires. Ils vendent, et puis on leur dit allez en bourse, vers les PEA, c'est-à-dire que vous allez mettre tout ça dans un compte en action, qui sera exonéré, dont vous tirez au moment de la liquidation, bon, au bout de 5 ans ou 6 ans. Et le problème, c'est que tant que la bourse monte, comme vous allez être obligé d'être dans ces PEA pendant une longue durée, c'est très bien quand la bourse monte, mais la bourse, elle ne monte jamais pendant 5 ans. Il n'y a jamais de bourse qui monte pendant 5 ans sans qu'il y ait une correction. Et le mot correction en bourse,
oui, c'est une dégelée. Oui.
Mais c'est une dégelée, comme celle de 87 ou comme celle de 90. Donc quand vous êtes enfermé dans votre PEA, comme sur un de ces bateaux dont rêve M. Clément, vous allez couler avec le bateau. Donc il vaut mieux faire des opérations en bourse sur des actions ponctuellement et en sortir rapidement que de vous enfermer dans un plan d'épargne à long terme.
Le fait d'être enfermé dans un plan d'épargne...
On ne t'entend pas, il y a un problème. On a changé de micro... Pour des raisons, mais on n'a pas fait remarquer à Patrick, voilà.
Le fait d'être enfermé à moyen ou à long terme sur un partenariat avec une entreprise a tout de même un côté moral. J'entends par là, je ne suis pas actionnaire.
Oui, mais
pas,
la bourse et la moralité
sont deux choses différentes.
C'est le capitalisme.
Mathieu, je vous remercie.
Sauvage.
Vous confirmez bien ce que je craignais, parce que il me semble que quand on est partenaire d'une entreprise, le fait de mettre ses billes dans le circuit, pour parler trivialement, fait que on apporte peut-être de l'argent frais, peut-être des liquidités au moment où l'entreprise en a besoin, et au moment où elle va moins bien, on est un peu solidaire. Alors que si je comprends bien, le fonctionnement de la bourse, c'est pas du tout ça.
C'est pas du tout ça. Bien sûr, je veux dire l'entreprise.
Non, c'est pour ça.
En règle générale, à part quelques entreprises, quelques grands groupes se foutent de ces petits actionnaires. Il faut bien le dire. Certains les soignent en leur donnant, je pense à Ciparex ou des dividendes accrus lorsque vous restez plus longtemps sur l'action. Mais la plupart du temps, le petit actionnaire est comme le petit électeur. C'est un grain de sable dans une. Bon, le noyau dur, le gros. Lui, regardez avec le plus grand respect. Donc. Toutes ces liquidités arrivent sur la bourse, elles viennent vers les actions, c'est un surcroît de... on voit bien, la bourse s'emballe parce qu'elle s'emballe sous un afflux de liquidités qui recherche des emplois ou des remplois, mais un peu comme de l'essence alimente une voiture qui roule sur un tapis roulant sans avancer. Et tout ça finira par se gripper car il y a un absolu illogisme.
Alors Marc, il faudrait en parler pendant des heures parce que c'est un sujet passionnant et tout à fait d'actualité, mais je vous pose une question un peu idiote. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Imaginez quelqu'un qui a un patrimoine, je dirais un patrimoine moyen en France. Qu'est-ce que c'est un patrimoine moyen? 100 000 francs, 150 000 francs?
Oh, c'est plus
c'est que ça. Non, mais un patrimoine boursier. Mettons 100 000 francs. Hein. Imaginez.
Insupportable, mais il parle généralement en kilos de francs.
Je vais être malade. Alors, donc,
insupportable.
Laissons tomber ça. Disons 100 000 francs.
On peut s'abonner.
Quelle horreur. 100 kilos de francs.
Malade vaut 2 kilos de francs. C'est un cadeau.
Alors, moi, elle vaut 600 grammes francs.
Voilà,
c'est pas très intéressant. Donc, imaginez que j'ai 100 000 francs
bah, je vous
et qui seraient placés, disons n'importe quoi, en sécave monétaire non, non, ou
je,
en...
Je vais vous donner bah, la panacée. Il se trouve que...
Il a trouvé la solution.
Mais vous savez, les seuls marchés... Bon, il se trouve que voilà, ils font comme des noirs, là. Ils serrent les mains d'une manière incroyable. Vous savez, ils serrent les mains comme ça, comme dans les films.
Alors, répondez, 100 000 francs.
100 000 francs, c'est ultra simple. Il y a un an et quelques, j'ai conseillé à mes chers lecteurs de se placer sur une SICAV qui venait d'être créée. Et pour une fois, j'ai mis aussi un peu d'argent. Mais c'était pas un produit spéculatif puisque c'est une SICAV, c'est pas une action. Cette SICAV a été créée simplement parce que je crois, et j'en parle toujours dans les entreprises, que ce soit les entreprises ou que ce soit les gestionnaires de patrimoine, je crois à la qualité des patrons. Lorsque Michelin est mené par la famille Michelin, Michelin finalement s'en sort toujours, quand un des Michelin est bien. Je crois beaucoup moins à M. Calvet qui passe son temps à se plaindre et à dire que c'est la faute au jaune, c'est la faute au rouge, c'est la faute, bon, c'est la faute à lui, quand on ne sait pas affronter la concurrence. Donc je m'intéresse toujours à savoir les qualités, non pas humaines, plus secondaires, mais les qualités de manager, d'un patron. Bon, dans le cas de cette SICAV, elle venait d'être créée par Monique Bourven, qui a reconnu, je suis assez féministe, mais qui est reconnue comme la meilleure gestionnaire de patrimoine qu'il y ait en France. Elle gérait tous les fonds placés, clients et de la banque elle-même du Crédit Agricole. Au moment où le Crédit Agricole était la première banque du monde. C'était une énorme responsabilité. Et puis il en est parti, il est passé au crédit parce qu'il en avait assez de un peu des problèmes qu'il y a structurels également au Crédit Agricole. Elle est passée au Crédit National et là elle a roué parce que c'est une femme qui a du caractère dans les brancards avec Kahn qui était le patron du Crédit National et elle a créé la filiale française de la banque State Street de Boston qui est l'un des principaux gestionnaires, entre autres, de patrimoine au monde. Et elle a pensé à aller les voir et à leur demander de créer une branche française dont elle a pris la tête et qui est autonome, qui est une société de droit français. Et à partir de là, elle a mis dans cette affaire toute la... Elle s'est choisie une équipe et toutes les connaissances et toute l'astuce qu'elle a pour créer des fonds, des SICAV, des OPCVM, comme on dit, des SICAV, mais des SICAV pointues qui n'existaient pas encore en France. Et la première qu'elle a créée, c'est une SICAV placée sur les marchés en émergence. Alors, qu'est-ce que c'est que les marchés en émergence? Eh bien, c'est les États du Sud-Est. C'est les États qui, au lieu d'avoir leur passé derrière eux, ont leur futur devant. C'est-à-dire que c'est les pays du sud-est asiatique, pas les bourses de Hong Kong, pas Singapour, qui sont déjà des bourses adultes.
La Corée.
Mais la Thaïlande, mais l'Indonésie, les Philippines, la Corée du Sud, et puis également en Amérique latine, la bourse de Mexico, la bourse de Rio, la bourse de Santiago, la bourse de Buenos Aires, etc. Et ce sont... Ou en Europe également, la bourse d'Istanbul. La Turquie a pris 190% l'année dernière. La bourse portugaise. Et c'est d'abord sur une technique qui permet, quantitative, qui permet chaque fois, ils prennent que les affaires de l'indice, mais en choisissant les meilleurs de chaque indice de chaque bourse. C'est comme si vous choisissiez que des valeurs du CAC 40, donc vous réduisez, surtout sur des marchés qui sont petits, le risque, puisque vous prenez les plus grosses affaires dans les marchés existants. Et dans ces affaires où vous avez sur la bourse de Kuala Lumpur 30 affaires dans l'indice, ben elles vont prendre les 3 ou 4 meilleures, et ils arrivent régulièrement, et en faisant des arbitrages très rapides, ils arrivent régulièrement à être meilleurs sur une année que l'indice de chacune des places.
Donc si on a 100 000 francs, il faut acheter... Eh bien, ça s'appelle comment
moi, je sais pas, je pose la question. Cette SICAV qui s'appelle...
C'est ce que demandent tous les auditeurs.
Cette SICAV qui s'appelle le State Street Emerging Market. a pris cette année alors, près de 80...
Le Stade Street Emerging Market,
voilà,
notons.
A pris cette année près
noté,
de...
Ils n'ont pas noté, vous savez. Non, pouce, ils n'ont pas
non,
noté.
Non, mais State alors, Street
je,
Emerging
je vous,
Market.
Je vous donnerai les...
Non, puis, non, on n'a plus le temps.
Bon, alors, mais, bon, State, peut-être à la
fin.
Bon, State
est,
Street, State Street Emerging Market.
Voilà, ça y est, voilà. Je vais noter.
C'est donc produit par le State Street Bank qui se trouve, ils ont changé d'adresse,
oh ben,
ils sont 12 rue Balzac.
Voilà.
Ça coûte combien ?
Alors, cette, je vous donne mon exemple personnel. Quand j'ai découvert ça, j'en ai pris un peu. Je l'ai acheté à 10 500 francs. Elle est à 22 000 francs.
Ah ben. Si je trouve 10 amis, on va peut-être pouvoir en prendre une.
Ça vaut mieux que l'inverse.
Elle prend actuellement 2% parfois, 2 à 3% par semaine.
Ah, ça, c'est ce qu'on appelle.
C'est meilleur qu'un endossement officiel.
C'est pas un placement, c'est un escalator.
Et j'ai été le premier à en parler dans la presse. Beaucoup des lecteurs de la lettre l'ont pris, donc ils ont doublé, depuis que je l'ai conseillé, leur mise, sans risque, parce que c'est sur un an.
En combien de
alors,
temps
Marc, très très vite
en,
maintenant.
En un peu plus d'un an.
Les questions d'auditeurs, les questions précises. Je vous demande de répondre pratiquement par oui ou par non.
Yes.
Que pensez-vous du titre Euro Disney ? Son prix très bas doit-il nous inciter à acheter ou faut-il vendre ?
Il ne faut ni acheter ni vendre, il ne faut pas en avoir. Si vous en avez, vous n'avez pas lu ma lettre.
Ben non.
Eh bien, attendez un peu à une réaction qu'il fasse un petit peu remonter, mais gardez pas très longtemps.
Je n'ai pas en remonter.
Un auditeur a acheté en janvier 93 une SICAV de 50 000 francs. Il se demande s'il ne ferait pas mieux de la liquider pour prendre un livret de caisse d'épargne avec un taux de 7,5%.
Ben, je veux dire, les SICAV, il y a parfois des SICAV intelligentes, et puis il y a des SICAV, comme on dit en argot, vraiment très très
pas intelligentes du tout.
Très cave. Tout dépend du gestionnaire, c'est comme la langue des hommes. Alors, vous avez des gestionnaires qui vont faire monter votre SICAV de 30%, et donc, je ne sais pas quelle est la SICAV, mais une SICAV de 50 000 francs, c'est trop cher de toute manière. Il faut acheter une SICAV qui vaut 10, 12, 1000 ou 300 ou 3000 francs, mais 50 000 francs, non.
Alors, donc, il vaut mieux qu'il prenne un livret de caisse d'épargne.
Non, mais
non,
je peux pas lui dire. Si je ne sais pas quelle est sa SICAV, je ne peux pas lui dire.
Non. C'est alors, une excellente. Il faut dire une chose, c'est quand on est abonné à la lettre. Quand on est abonné à la lettre bleue, si on vous écrit, on a une réponse personnalisée.
Comprenons-nous, je réponds à... j'ai deux, la lettre a 6 pages, et sur les, j'ai 2 pages, 2 réponses au lecteur. Je m'arrange à répondre très en détail, très précisément, à 3 réponses par semaine, mais celles qui peuvent intéresser le maximum de lecteurs, de manière à ce que ce ne soit pas un... Et je fais en sorte que ces réponses soient motivées, non pas leur dire seulement... Parce que ce sont des gens intelligents, il faut leur expliquer, si je leur dis vendez, pourquoi.
Les intérêts des comptes fixes ont diminué, le mouvement de baisse serait général, est-ce vrai ? Là, je comprends même pas ce que je lis.
Alors, ce qui m'arrive assez souvent...
Oui, non, mais sur les comptes... C'est fonction de l'état général des taux, ça a plutôt tendance à baisser qu'à monter.
Alors, il y a un monsieur qui n'est pas d'accord, qui dit l'abattement fiscal est de 5 000 francs par foyer fiscal et non par personne.
Pour les...
Alors, je pense que c'est joli. Madame Bourvenne est une gestionnaire de portefeuille et non de patrimoine.
C'est la même chose.
Enfin, je ne sais pas. Et il est scandaleux de conseiller de passer la totalité de son capital sur une SICAV de marché émergent. Voilà.
Mais je suis désolé.
Je
n'ai jamais dit qu'il fallait... J'ai parlé de 100 000 francs. Je n'ai jamais dit qu'il fallait... Il ne faut pas en placer plus de 20% du patrimoine que l'on peut avoir. De 20%, si le patrimoine est très important, s'il est faible, de ne pas dépasser 10 à 15%.
Marc, merci. J'ai quelqu'un au téléphone qui nous téléphone de loin, donc je le prends tout de suite. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir, c'est Jean-Marie Le Pen à l'appareil.
Oh, quelle bonne surprise.
Mon cher Serge, je suis à votre rendez-vous.
C'est très gentil.
Et très heureux de pouvoir brièvement m'exprimer à votre antenne pour d'abord vous présenter à tout seigneur, tout honneur, mes meilleurs voeux pour l'année 1994, mais aussi à travers vous, à tous les auditeurs de Radio Courtoisie, leur souhaiter bien sûr une bonne et heureuse année, une bonne santé, et le maintien du lien irremplaçable que constitue pour eux et pour nous Radio Courtoisie. Je souhaite donc longue vie et bonne santé à Radio Courtoisie, parce que dans le désert médiatique dans lequel nous nous trouvons actuellement, c'est réconfortant de pouvoir de temps en temps accéder à l'oreille de quelques milliers ou dizaines de milliers ou centaines de milliers peut-être citoyens français.
Jean-Marie Le Pen, je vous remercie de ces bons voeux. Je vous les réciproque de ma part et de la part de beaucoup d'auditeurs de cette émission. Pas de tous, je dois dire, parce que quand on voit arriver les appels téléphoniques, on voit qu'il y a quelques auditeurs qui ne sont pas, à proprement parler, des sympathisants. Mais l'énorme majorité, et je suis sûr, s'associe à moi pour vous présenter ses voeux. On va être très bref parce que vous êtes loin et que je sais qu'il est très inconfortable de converser au téléphone, surtout pour vous. En plus, vous êtes submergé d'obligations en ce moment. Mais je sais que vous serez sur Radio Courtoisie très prochainement.
Oui, c'est vendredi soir, je crois, à partir de 19h ou 19h30. Je serai l'invité de Jean-Gilles Maliarakis. C'est vendredi, je crois, c'est-à-dire après-demain.
Voilà, c'est ça. Et je tenais à ce que ça soit signalé à nos auditeurs, puisque j'ai beaucoup d'appels, encore tout à l'heure, des appels d'auditeurs me disant « Mais on n'entend plus Jean-Marie Le Pen depuis longtemps dans votre émission. »
Rassurez-les, petit bonhomme pas mort.
Voilà. Alors, en un mot quand même, je vous en parlerai certainement plus longuement chez Malia, mais
oui
ce grand voyage que vous avez fait en Amérique du Sud, l'impression que vous en ramenez, en un mot vraiment, est-ce que c'est une impression favorable ou...
Il est évident qu'il s'agit d'un continent dont je n'ai visité que 5 pays, si j'ose dire. L'impression, c'est que ces pays du cône sud de l'Amérique du Sud sont dans une situation économique beaucoup meilleure qu'ils ne l'étaient, à l'exception peut-être du Brésil, où vous savez qu'il y a 2000% d'inflation par an. Mais pour ce qu'il s'agit de l'Argentine, du Chili, de l'Uruguay et même du Paraguay, la situation est bien meilleure, est stabilisée, et je dois dire que je dis sur cette antenne ce que j'ai dit là-bas, à savoir que ces pays, et d'ailleurs le monde entier, doivent être reconnaissants au général Pinochet d'avoir bloqué, cassé l'offensive communiste, de prise de pouvoir communiste, dans ce continent qui, en 1973, c'est-à-dire il y a 20 ans, aurait peut-être donné suffisamment de nouvel élan au communisme pour que celui-ci réalise son rêve d'hégémonie mondiale. Et par conséquent, je suis reconnaissant à tous ceux qui ont combattu le communisme et en particulier à un homme qui a évidemment été sali, comme c'est habituel quand il s'agit d'un adversaire du communisme, par toute l'intelligentsia et les médias mondiaux. D'ailleurs, Madame Suzanne Labin, dans un livre qui s'appelait « Le droit de résister », avait tout dit, c'est-à-dire dit toute la vérité sur le sujet, vérité qui est occultée, hélas, même aux yeux de beaucoup de nos amis.
Merci Jean-Marie Le Pen, merci de nous avoir téléphoné pour nous présenter ses voeux et pour nous avoir montré, en tout cas on le sent à votre voix, que vous revenez gonflé à bloc.
Oh oui, absolument. Je vous raconterai, je vous dirai ce que je dois faire dès la semaine prochaine. Je vais compter visiter 95 départements de la métropole française en l'espace de 6 semaines. C'est vous dire que c'est une gageure qui va nécessiter beaucoup d'efforts et que je me sens en pleine forme pour le faire.
Bonne année, Jean-Marie.
Bonne année. Merci à tous.
Et à bientôt, et en tout cas sur cette antenne. Et
le paradis à la fin de vos jours, comme on dit en Bretagne, et le plus tard possible, bien sûr.
Merci Jean-Marie Le Pen.
Au revoir.
Au revoir. Voilà, Marc, vous me pardonnerez de vous avoir coupé la parole pour...
Je crois savoir qu'il était dans des pays que je connais bien.
Que vous connaissez bien, oui. Alors, je vous propose d'ailleurs, parce qu'on ne va pas avoir le temps d'en parler, contrairement à ce que j'avais promis tout à l'heure, de revenir la semaine prochaine. Est-ce que vous êtes d'accord pour nous expliquer...
Con mucho gusto a su disposición.
Voilà. Pour nous expliquer un mystère paradoxal, je le dis tout de suite, et on en parlera donc la semaine prochaine d'une façon plus développée, c'est que... dans cette lettre d'information financière, dans le dernier numéro de la lettre, vous avez rendu un hommage à Zapata. Alors, c'est assez inattendu, mais je vous demande de ne pas l'expliquer maintenant, vous le ferez la semaine prochaine, faute de temps. C'est assez inattendu, je dois dire, de voir dans une lettre, qui est une lettre boursière, financière et autres, de trouver un hommage à quelqu'un qu'on peut considérer quand même comme un révolutionnaire, qui n'était pas à proprement parler un défenseur du grand capital.
Un clown. Ça, c'est l'opinion de Daniel.
C'est la grosse différence entre vous. Entre, oui, c'est un clown.
Achille Zapata, non, c'est pas le même. Je t'explique hors micro.
C'est pas le même, d'ailleurs, pour une raison simple. On ne peut pas parler de bourse sans parler du monde. Vous savez, la fameuse formule « faites-moi une bonne économie, je vous ferai de la bonne politique » ou vice et versa. Mmh. Mais on ne peut absolument pas dire, on n'est pas dans un univers clos, sous une véranda et près d'une corbeille. Et pour ça que je remets chaque fois dans son contexte. Or, ce qui se passe, d'abord, j'ai une... ce qu'il ne faut pas oublier, on en reparlera la semaine prochaine, c'est que Zapata n'est pas un marxiste. Zapata est un populiste. Il défend l'Amérique, c'est-à-dire les Américains, c'est-à-dire les Indiens, et l'avenir de l'Amérique, ce sont les Indiens, et ce ne sont pas les gringos.
On en reparle la semaine prochaine, Marc, si vous voulez.
J'indique l'adresse de la lettre bleue, alors c'est la lettre bleue.
La lettre bleue de Mathieu Huguenet, 16-18 place de la Chapelle, 75-018 Paris, 75-018 si vous écrivez de Belgique ou de Suisse, et en m'envoyant simplement... à l'intérieur de l'enveloppe, une enveloppe timbrée si vous le voulez, sinon on s'en passera, je vous enverrai un ou deux spécimens de la lettre qui comporte, mais spécimens, je le répète, récents, c'est de la semaine dernière, et qui comporte un bulletin d'abonnement. Si vous voulez en prendre pour 2 mois après l'avoir vu, je vous souhaite la bienvenue parmi les abonnés.
Bienvenue au club. 16-18 place de la Chapelle, 75-018 Paris, la lettre bleue de Mathieu Huguenet.
Il y a un grand nombre d'auditeurs qui demandent quand on connaîtra les résultats du sondage organisé par Radio Courtoisie auprès des auditeurs.
J'ai beaucoup d'appels et de lettres là-dessus. Je dois dire que je ne peux pas répondre parce que je n'ai moi-même strictement aucune information sur cette enquête qui a été faite auprès des éditeurs de Radio Courtoisie. Je n'en ai rien vu, je n'en sais rien et je ne sais pas quand ce sera publié.
Et puis, beaucoup d'auditeurs aussi auraient aimé entendre vos commentaires, mais je crois que ça va être trop tard, sur les propos de Philippe de Villiers hier soir à Courtoisie.
Vous savez, le principe de cette émission, enfin le principe de cette radio, c'est que chaque responsable d'émission est totalement libre dans le cadre de son émission. Et donc, il y aurait une espèce de discourtoisie à émettre des commentaires sur des propos tenus dans d'autres émissions. Si Monsieur de Villiers vient dans mon émission, je lui dirai des choses, je poserai des questions, on aura un entretien. Mais je ne tiens pas du tout à me prononcer sur d'autres émissions de cette radio.
Et puis plusieurs auditeurs auraient...
Sinon, pour dire qu'elles sont remarquables et excellentes, et pour rappeler que vendredi soir, Jean-Gilles Maliarakis recevra Jean-Marie Le Pen.
Et que vous serez à cette émission, alors?
Ah non, pourquoi?
Je vous avais dit tout à l'heure, je vous en parlerai, etc.
On avait compris que vous seriez présent
à cette émission.
Je n'ai pas été invité.
Non. Ah bah vous voyez, moi j'avais bien compris. Alors tous nos auditeurs auraient écouté vendredi. On n'écoutera pas, on attend que M. Le Pen vienne à ce micro.
Non, Le Pen sera invité dans l'émission de Malia, mais moi je n'y serai pas.
Ah bah,
enfin, pas pour l'instant.
On n'a pas le compris. Voilà. Alors. Et le nouveau quotidien Info Matin?
C'est le monde pour les analphabètes, quoi. C'est le monde coupé, donc c'est un peu l'idéologie du monde, et c'est aussi passionnant et drôle.
Et cet ouvrage sur les monuments ésotériques, est-ce que vous allez bientôt donner les références?
Je les donne à chaque fois, ça s'appelle Sous la bannière, et on se le procure à Villegenon, V-I-2-L-E-G-E-N-O-N, c'est dans le Cher, je crois. 18, hein, c'est ça, 18 000 quelque chose. Donc vous mettez 18 Villegenon et ça arrivera.
Et puis, est-ce que je peux rappeler que M. Bruno Bégret parlera à la salle Malesherbes à Maison Lafitte le lundi 17 janvier à 20h pour une réunion électorale pour les cantonales partielles, Madame Martinet étant candidate.
C'est Antoinette Martinet qui est candidate. Ça se passe à 20h30 le 17 janvier à la salle Malesherbes, parc de Maison Lafitte avec Bruno.